الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الخامس من شهر صفر عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الرابع والعشرين من شرح كتاب التوحيد للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 5 novembre 2016 et nous entrons dans le 24e cours de l'étude du livre de l'unicité écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Nous avons conclu, achevé l'étude du chapitre qui porte sur l'intercession. Et nous entrons dans le chapitre suivant. L'auteur, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre Kitab al-Tawhid, « Bab qawlillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt » Le chapitre à propos de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est une traduction rapprochée d'une partie du verset, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Tu ne guides pas qui tu aimes ». Bien sûr, le verset est plus long. « Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin ». Il ne t'appartient pas de guider qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut, et il est bien connaisseur des guidés. Il sait qui doit être guidé, subhanahu wa ta'ala. Ce chapitre a aussi pour but, comme les chapitres précédents, le chapitre de l'intercession, de montrer les preuves qu'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, a le droit à l'adoration et nul autre que lui. Puisque Allah Azza wa Jal est le seul à pouvoir guider qui il veut, égarer qui il veut, accorder le bien à qui il veut, repousser le mal de qui il veut. Et quel mal a repoussé plus grand que celui du kufr, que celui de l'égarement? Et quel bien à obtenir meilleur que celui de la guider au tawhid, la guider à l'islam, la guider à la sunna? Nul autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'est capable d'avoir cette guidée. Et cela fait partie des preuves qu'Allah seul, tabaraka wa ta'ala, mérite l'adoration. Et le lien qu'il y a entre ce chapitre et Kitab al-Tawhid est le suivant. Comme nous l'avons dit, ce chapitre fait partie des preuves qu'Allah seul a le droit à l'adoration, subhanahu wa ta'ala, et que la guidée ne doit être demandée qu'à Allah, tabaraka wa ta'ala. Le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents, c'est le fait que ce chapitre, comme les autres précédents, est une preuve que seul Allah doit être guidé. Je reviens au premier, le lien entre ce chapitre et Kitab al-Tawhid. Le lien entre ce chapitre et Kitab al-Tawhid, étant donné que ce chapitre est une preuve que seul Allah doit être adoré, et c'est ça même le Tawhid, l'auteur l'a cité dans Kitab al-Tawhid. Le lien entre ce chapitre et les chapitres précédents, c'est que les chapitres précédents traitent aussi de ce sujet qui est la preuve ou prouver qu'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit « غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب الرد على الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم » Le but de l'auteur, à travers ce chapitre, c'est de réfuter les exagérateurs à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وعلى المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين. De même, à l'égard des polythéistes associateurs qui attachent leur cœur et les dirigent vers les vertueux et les pieux. يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم. Et qu'ils invoquent en dehors d'Allah et auxquels ils demandent la protection ou le secours. لأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لعمه أبي طالب شيئا وأنه لا يدعى من دون وأنه نهي عن الاستغفار له ففي حق غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. Car si le messager d'Allah ne possède même pas la guidée pour son propre oncle paternel qui est Abu Talib, comme nous allons le voir dans le récit cité dans ce chapitre, Inch'Allah, ne possède même pas pour lui la guidée, au point où on lui a interdit d'implorer le pardon d'Allah en sa faveur, en la faveur de son oncle. Alors, à plus forte raison, il est évident qu'il n'est pas permis de demander à autre que le prophète sallallahu, pardon, à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut même pas apporter ce bien à son propre oncle paternel qu'il a tant aimé. Et il a aimé d'un amour naturel, comme nous allons le développer dans ce chapitre, Inch'Allah ta'ala. Voici ce que l'auteur a voulu, rahimahullah. L'auteur a cité le premier chapitre. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Dans ce chapitre, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô toi le messager, dans le sens rapproché, ce qui est voulu du verset. Ô toi le messager, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et il est bien connaisseur des guidés, subhanahu wa ta'ala. Il montre à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est le seul à détenir la guidée. Il guide qui il veut. Il égare qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Même les gens les plus proches, même ceux que tu aimes le plus, et auxquels tu portes la plus grande des considérations, pour lesquels tu souhaites la guider, que ce soit à l'islam, s'ils ne sont pas musulmans, ou dans la sunna, s'ils ne sont pas dans cette guidée du prophète, alayhi salatu wassalam. Et quoi que tu fasses, tu peux fournir autant d'efforts que tu veux, tu peux t'adresser à eux, de plusieurs façons. Tu peux faire tout ce qui est en ta capacité, mais c'est Allah qui guide, subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qui guide, et personne d'autre que lui ne peut guider ni égarer, tabaraka wa ta'ala. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Mais Allah guide qui il veut, et il est bien connaisseur des guidés. Il sait qui mérite la guidée, à quel moment il la mérite. Il sait qui mérite l'égarement, pourquoi il l'a mérité. Lorsqu'il guide quelqu'un, subhanahu wa ta'ala, c'est par miséricorde. Lorsqu'il égare quelqu'un, tabaraka wa ta'ala, c'est par justice. Car tout ce qu'Allah fait est parfait. Allah azza wa jalla est exempt de toute injustice, de tout manque, de toute défaillance. Dans ses noms et attributs, dans ses paroles, dans ses actions. Lorsqu'il guide, c'est parfait. Lorsqu'il égare, c'est parfait. C'est parfait parce qu'il est miséricordieux quand il guide. C'est parfait parce qu'il est juste quand il égare. Subhanahu wa ta'ala. Et nul autre qu'Allah ne partage de telles caractéristiques, de tels attributs avec lui qui est parfait. Subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah a dit: Fanafa subhanahu wa ta'ala an nabiyhi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam annahu yamliku al-hidayata li ahad. Allah tabaraka wa ta'ala a nié que son prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse avoir la guidée pour quiconque. Tout comme il l'a cité dans d'autres versets parmi lesquels, كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. Dans le sens rapproché de ce verset, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: ce n'est pas à toi de les guider, mais Allah guide qui il veut. Dans l'autre verset: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Dans le sens rapproché: et la plupart des gens, même si tu es motivé, c'est-à-dire pour leur guider, ne sont pas croyants. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui sait qui doit être guidé, qui doit être égaré. Pourquoi un tel doit être guidé? Pourquoi un tel doit être égaré? Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, qu'Allah le récompense, ici a dit, et cela doit te faire ressentir la joie, car toi, Inch'Allah, tu fais partie des gens guidés. Dans ce monde où beaucoup de gens sont égarés, que ce soit en dehors de l'islam, al-mushrikoun, al-kuffar, les polythéistes, ou alors dans l'islam, combien de courants y a-t-il qui sont tous aussi faux les uns que les autres? Et Allah Azza wa Jal décide de te guider dans l'islam et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette guidée est le meilleur bienfait, car sans ce droit chemin, tu ne peux atteindre, tu ne peux entrer au paradis. Sans ce droit chemin, tu ne peux être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment une ni'ma, un bienfait sans pareil duquel nous jouissons, parce que nous sommes là assis à étudier la base de l'islam, le fondement de l'islam, al-tawhid, la ilaha illallah, et la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne pensez pas que c'est quelque chose de normal, de simple, d'habituel. Bon nombre de gens sont assis comme nous le sommes en ce moment même, pas pour étudier le tawhid, pour apprendre à shirk, pour apprendre à al-bid'a, pour apprendre à altérer le Coran et les textes du Coran et de la sunna. Ils ne sont pas assis pour comprendre ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. Ils sont assis pour déformer ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. Et ils apprennent comment égarer les gens. Wal'iyadu billah. Et ils répandent leur venin sur terre. Et Allah Azza wa Jalla a dit: Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et il est bien connaisseur. Il est plus savant de celui qui mérite d'être guidé. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لشكر هذه النعمة. Nous implorons Allah تبارك وتعالى de nous aider à se montrer reconnaissant envers lui pour ce bienfait qu'il nous a donné. Si tu meurs dans cet état et que tu es mukhlis, tu es sincère envers Allah عز وجل dans ce moment, dans cet état, Allahu a'lam s'il y a une mort plus belle que celle-ci. Allahumma thabbitna 'ala ad-din. Allahumma thabbitna 'ala as-sunnah. Allahumma thabbitna 'ala ad-din. Allahumma thabbitna 'ala as-sunnah. L'auteur rahimahullah ta'ala a dans ce chapitre cité ce premier verset que nous venons d'entendre, puis un hadith qui nous explique ce verset et la cause de sa révélation. L'auteur dit: wa fi sahih ay 'ind al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa Muslim fi sahihayn. Et dans le recueil de récits authentiques, c'est-à-dire chez l'imam al-Bukhari et Muslim, 'an ibn al-Musayyib 'an abīhi qala lamma hadarat Aba Talib al-wafā جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لن فأنزل الله عز وجل ماذا؟ نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ce hadith est immense. Dans le recueil de hadith authentique, d'après Ibn al-Musayyib, il y a deux façons de le dire. Al-Musayyib ou alors Al-Musayyab. Et il n'aimait pas, lui le concerné, n'aimait pas être appelé Musayyab. Et à Médine, on l'appelait Al-Musayyib. Et c'est en Irak que les gens l'appelaient Al-Musayyab. Et c'est Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, huwa min al-Tabi'in, il fait partie des Tabi'un. Les Tabi'un sont ceux qui ont vu les Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, et qui ont pris d'eux la science. Et il fait partie des Kibar al-Tabi'in, il fait partie des grands Tabi'un, il fait partie des grands savants et des grands fuqaha, des grands savants du halal et du haram, comme l'a dit l'imam Zahabi rahimahullah dans sa biographie. Et ici, c'est soulevé par le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Il faisait partie des grands savants vers lesquels on se rendait pour demander la fatwa. Non pas comme aujourd'hui, on interroge n'importe qui, on demande au premier qui se présente et qui parle dans la religion. Eux, non, ils n'étaient pas comme ça. Ils allaient voir les grands savants. Et ça, c'est l'importance de suivre les savants, de prendre la science des grands savants du tawhid, des grands savants de la sunna, et de ne pas prendre la science de n'importe qui. Quoi qu'il en soit, son père, Al-Musayyib, est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que son grand-père, Hazan, est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc un tabi'i, fils d'un compagnon et petit-fils d'un autre compagnon. Quelle belle famille! Allahu Akbar! Ceci étant dit, il dit, donc d'après son père, c'est le Musayyib qui dit, lorsque les jours d'Abu Talib touchèrent à leur fin, on pourrait traduire par quand la mort est venue à Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez lui et y trouva Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son oncle, ô mon oncle, dis, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. Une parole par laquelle j'argumenterai en ta faveur auprès d'Allah. Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl, qui étaient à ses côtés, lui dirent alors, délaisserais-tu la religion de Abdul Muttalib, c'est-à-dire la religion du shirk et du kufr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réitéra alors sa requête. Il lui dit, ô mon oncle, dis la ilaha illallah. Et les deux acolytes en firent autant. Et eux ont fait la même chose et ont répété, vas-tu délaisser la religion de tes ancêtres? La dernière phrase qu'Abu Talib prononça fut « Il suit la religion de Abd al-Muttalib ». Il refusa donc de dire « La ilaha illallah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Je ne cesserai d'implorer le pardon d'Allah en ta faveur tant qu'il ne me l'aura pas interdit ». Et Allah Azza wa Jal révéla alors le verset dont le sens rapproché est « Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils leurs proches. » Et il révéla aussi concernant Abu Talib, le sens rapproché du verset « Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. » Subhanahu wa ta'ala. Il m'arrive dans la traduction d'utiliser d'autres termes, si je vois que c'est plus précis. Wallahu a'lam. Donc, dans ce récit, nous voyons que l'oncle paternel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abu Talib, était sur le point de mourir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu 8 oncles paternels. Son père a eu 8 frères. 4 sont morts avant l'islam. 4 ont vécu pendant l'islam. Eux-mêmes se sont divisés en 2. 2 ont adhéré à l'islam et 2 n'ont pas suivi l'islam. Les 2 qui ont adhéré à l'islam, Al-Abbas, le père de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et Hamza, radiyallahu anhu. Et 2 autres n'ont pas adhéré à l'islam. Abu Talib et Abu Lahab. Si ce n'est que Abu Lahab s'est opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait l'ennemi du messager d'Allah et a voulu le nuire. Allah azza wa jal l'a destiné au feu dans une surah qui est surah al-Masad, Tabbat yada Abi Lahab, jusqu'à la fin de la surah. Et enfin il y a Abu Talib qui n'a pas embrassé l'islam, qui n'a pas adhéré à cette religion, mais qui, contrairement à Abu Lahab, a soutenu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a épaulé, il l'a protégé, il l'a éduqué, il a repris le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait 8 ans, car il a perdu en bas âge son père, sa mère, son grand-père, Abd al-Muttalib. C'est là que Abu Talib l'a repris, alors qu'il avait 8 ans. Il l'a éduqué, il l'a vêti, nourri, il l'a entretenu, il s'est occupé de lui de la meilleure façon, jusqu'au moment où la révélation lui a été faite, sallallahu alayhi wa sallam. Et alors le peuple de Quraysh a témoigné l'animosité au messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, a voulu le tuer, s'est opposé à lui. Et qui est-ce qui était là pour le secourir, pour le défendre, pour l'entourer? Abu Talib, qui n'était pas musulman et qui n'a pas embrassé l'islam jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Mais il a été une cause pour l'avancée de l'islam et pour que le messager soit protégé, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agit donc pas de n'importe qui. Il s'agit de quelqu'un qui a fait, qui a œuvré, qui a aidé, malgré le fait qu'il n'a pas adhéré à l'islam. Mais il a fait quand même ce qu'il a fait, et Allah n'est pas injuste, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, pour cette raison, il est la personne qui aura le châtiment le moins fort dans l'enfer. Il aura le châtiment qui est le moins fort dans le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne peut pas sortir de l'enfer parce qu'il n'est pas mort sur l'islam et sur le tawhid. Et vous voyez la justice parfaite d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci étant dit, lorsque la mort est arrivée à lui, et lorsque l'on dit la mort est arrivée à lui, on ne parle pas du dernier moment de l'agonie qu'on appelle en arabe al-gharghara et qui est traduit par le râle. Le râle, c'est le son que la personne en train de mourir, en train de quitter ce bas monde, laisse sortir de la gorge. Et ça arrive souvent quand la personne est en train de partir, en train de mourir, qu'Allah nous donne une bonne fin. Il arrive que la personne laisse sortir de la gorge un son. Ce son, on l'appelle le râle, al-gharghara. Et on l'appelle en arabe al-gharghara, car c'est le même son qui est fait lorsque vous prenez de l'eau et vous le mettez en haut de la gorge pour nettoyer. Hein, quand vous faites un bain de bouche, par exemple, ou quand vous mettez de l'eau, vous avez vu, vous voyez le son qui sort? On appelle ça rarara en arabe. À ce moment-là, le repentir n'est plus accepté. Il n'est plus accepté par Allah Azza wa Jalla. Il ne s'agit pas de ce moment-là. Comme a dit Cheikh Abdel Razak al-Badr, il s'agit des derniers moments avant qu'il ne meure, avant qu'Abu Talib ne meure. Le prophète s'est présenté à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour l'appeler à Allah. Il ne désespère pas. Peut-être va-t-il embrasser l'islam. Allah est capable de tout. Subhanahu wa ta'ala. Il s'est donc présenté à lui, alayhi salatu wa salam, alors qu'il y avait autour de lui Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, tout comme il y avait Al-Musayyib, qui raconte le récit. Abdullah ibn Abi Umayya a par la suite embrassé l'islam. Al-Musayyib aussi. Alors que Abu Jahl a été surnommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Fir'aun hadhil umma, le Fir'aun de cette umma, tellement il était hostile à l'islam et tellement il éprouvait de l'aversion pour le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, au point où le jour de la bataille de Badr, Abu Jahl est celui qui a réuni tous les gens de Quraysh de la Mecque pour se rendre à Badr, pour, selon lui, vaincre les musulmans et les éradiquer, au point où il a amené avec lui des boissons alcoolisées et des femmes danseuses. Et il a dit, nous allons à cet endroit, nous allons les terrasser, les vaincre, puis nous allons faire danser les femmes et boire le vin, afin que tous les Arabes de la péninsule arabique nous redoutent et nous craignent. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la veille de la bataille de Badr, dit à ses compagnons, en désignant des endroits au sol, à cet endroit, Abu Jahl va tomber et mourir. À cet endroit, un tel va tomber et mourir. À cet endroit, un tel va tomber et mourir. Et après la bataille de Badr, les compagnons se sont rendus dans ces endroits et ils ont vu que chaque personne désignée avec son endroit est tombée morte dans cet endroit. Le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Abu Jahl était un des plus grands ennemis de l'islam. Et pourtant, son fils, Ikrima ibn Abi Jahl, était un des meilleurs sahaba, radiyallahu anhum. Après, bien sûr, une période passée dans le kufr, dans le polythéisme, il a embrassé l'islam. Ceci étant dit, le prophète se rend chez son oncle, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'appeler à l'islam, et il y a autour de lui ces personnes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, « Ya am, ô oncle !» C'est une façon d'adoucir son cœur. Car lorsque tu vas conseiller quelqu'un, lorsque tu vas inviter quelqu'un à une croyance, une parole ou une action, il faut adoucir son cœur. Ô oncle, dis la ilaha illallah, une parole par laquelle j'argumenterai en ta faveur auprès d'Allah. Et dans une riwaya, dans une variante du hadith, ashhadu laka biha, par laquelle je témoignerai pour toi auprès d'Allah. Il ne s'agit pas ici simplement de dire la ilaha illallah. Ne pas comprendre cela. Ce qui est voulu, c'est dire cette parole, la comprendre et mettre en pratique ce qui en découle et ses implications. C'est ça que lui demande le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, prononce la parole la ilaha illallah. Il n'a pas besoin de lui dire tout ce que vous venez d'entendre, car eux sont les Arabes. de souche, de base, et la langue est la leur, et ils comprennent la ilaha illallah, comme beaucoup de ceux qui prétendent l'islam aujourd'hui ne la comprennent pas. Et c'est le comble, et c'est quelque chose d'étonnant. Et donc, il lui dit, « Dis la ilaha illallah, une parole par laquelle j'argumenterai en ta faveur auprès d'Allah. » Al-Sheikh al-Fawzan a dit, « Intiq bihadhi al-kalima mu'taqidan laha biqalbik. » C'est-à-dire, prononce cette parole tout en croyant à cette dernière dans ton cœur. Une parole par laquelle j'argumenterai en ta faveur auprès d'Allah, je témoignerai. C'est-à-dire, comme a dit le Cheikh al-Fawzan, « Hafidha Allah min ajli najatika min an-nar » afin que tu sois protégé, secouru du feu de l'enfer. Et là, tu vois que la parole « La ilaha illallah » est protectrice du feu de l'enfer, si la personne qui la prononce la comprend et met en pratique ce qui en découle et ce qu'elle implique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « Je témoignerai pour toi auprès d'Allah. » Il encourage son oncle. Et c'est ainsi que doit être le prêcheur. Lorsqu'il appelle quelqu'un au tawhid, lorsqu'il appelle quelqu'un à la sunna, ne se contente pas de lui dire, « Fais cette chose. » Ne fais pas cette autre chose. Mais il lui dit, « Fais cette chose. Tu auras tel mérite et tu auras telle récompense. Ne fais pas cette chose. » Et tu auras tel mérite et telle récompense. Le Cheikh al-Fawzan a dit, فَفِيهِ أَنَّ الدَّاعِيَ إِلَى اللَّهِ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ التَّرْغِيبِ يُرَغِّبُهُمْ فِي الْخَيْرِ وَيُبَيِّنُ لَهُمُ الْعَوَاقِبَ الْحَسَنَةِ إِنِ اسْتَجَابُوا وَيُحَذِّرُهُمْ مِنَ الْعَوَاقِبِ الْوَخِيمَةِ إِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا فَالدَّاعِيَةُ يُبَشِّرُ وَيُنْذِرُ. Le prédicateur qui invite les gens à Allah encourage les gens vers le bien en leur parlant des bonnes conséquences, des effets positifs à faire telle et telle action, tout comme il met en garde les gens contre les mauvaises actions en leur parlant des effets néfastes et des conséquences négatives le jour dernier de ces actions. Le prêcheur est donc annonciateur et avertisseur. Mais les mauvaises fréquentations, ولكن جلساء السوء والعياذ بالله تسببوا في شقاوة هذا الرجل. Les mauvaises fréquentations ont été ici la cause de l'égarement de Abu Talib. Pourquoi? Parce que Abu Talib croyait que l'islam était la vraie religion. Il croyait que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une parole qui était l'effet de la révélation. Il n'avait aucun doute sur ça. Mais il ne s'est pas contenté. Mais il n'a pas pour autant prononcé la parole la ilaha illallah. Et ça, c'est une preuve que dans la foi, il y a la parole et les actes. Il y a la parole, la croyance et les actes. Ici, Abu Talib a eu la conviction, mais il n'a pas prononcé. Il n'est pas croyant. Contrairement à ce que disent Al-Murji'a, cette secte égarée dans la croyance, où ils disent que la simple croyance est suffisante. Non, la preuve ici. Comme l'a dit le Cheikh Al-Fawzan, comme nous allons le lire plus loin, Inch'Allah Ta'ala. Ils lui ont dit, « Atarrabu an millati Abdil Muttalib, délaisserais-tu la religion de Abd al-Muttalib? » Quelle est la religion de Abd al-Muttalib? Al-Shirk, l'adoration des idoles, le polythéisme. Et وَهَذَا مِنْ إِثَارَةِ النَّخْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْحَمِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ التَّعَصُّبُ الْمَمْقُوتِ وَأَتَيَا بِالْحُجَّةِ الْمَلْعُونَةِ. Et ces deux personnes, Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl, ont utilisé cet argument, comme dit Cheikh Abd al-Razzaq, qui ne cesse d'être utilisé jusqu'à notre époque par ceux qui essaient de justifier le polythéisme qu'ils font, les innovations qu'ils font. Lorsque quelqu'un veut délaisser cela, on leur dit, tu délaisses les coutumes de tes ancêtres, ta famille, ton village, ta tribu, depuis tant d'années, prononce ces paroles, font cette action, adhère à cette croyance, et toi, tant d'années après, tu arrives et tu délaisses leurs croyances, leurs paroles, leurs actions. Cheikh Abd al-Razzaq dit, et à cause de cette ambiguïté, qu'est-ce que font beaucoup de gens? Ils croient à la sunna, ils croient au tawhid, mais ils ne les mettent pas en pratique. Ils se disent, je vais être critiqué, je vais être blâmé par mon village, par mon pays, par ma tribu, par mes coutumes, par mon père, par ma mère, par mon oncle, par ma tante, et j'en passe. Et à cause de cela, en pleine connaissance de cause de la vérité, ils ne suivent pas la vérité. Allah, ici, ce n'est pas ça, la réalité de la tristesse et de l'égarement. On ne sait pas ce qu'est la tristesse, ni l'égarement. Et Achir Fawzan a dit, ils ont utilisé cet argument maudit que l'on retrouve dans le Coran. Par exemple, Allah Azza wa Jalla nous dit que ces gens-là ont dit, Inna wajadana aba'ana ala umma. Lorsque les prophètes venaient à certaines communautés, celles-ci leur répondaient, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion. Wa inna ala atharihim muqtadun. Et nous suivons leurs traces. Et ça, c'est un verset qui est dans Surat Az-Zukhruf. Le verset entier est le suivant. وَكَذَلِكَ مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدَنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Et ainsi, nous n'avons pas envoyé avant toi, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un village, un avertisseur à qui nous avons fait la révélation, sans que les notables de ce village, les gens aisés et les riches, qui sont enclins à l'orgueil très souvent, sans que les notables de ce village ne répondent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous restons sur leur trace. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ. Le prophète leur répondait, allez-vous le faire, même si je viens avec une guidée que n'avaient pas vos ancêtres? قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Ils répondèrent alors, nous mécroyons en ce avec quoi vous avez été envoyés. Allah Azza wa Jalla a dit, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Nous nous vengeâmes alors d'eux. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Regarde comment fut néfaste la fin des détracteurs. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et nombreux sont les versets où Allah Azza wa Jalla fait la mention de cette habitude, de cette coutume maudite, de cette coutume de Jahiliya, de Quraysh, qui est de dire « mes parents, mon village, mes parents, mon village ». Et souvent, Shaitan vient et dit à la personne qui a connu la vérité, qui ne veut pas la suivre, par amour pour ses coutumes, pour son village, pour son pays, pour ses habitudes, Shaitan vient à ce moment-là, au moment où la personne est peut-être convaincue, il vient à ce moment-là et lui dit, mais tu aimes tes parents, tu aimes ton village, tu aimes tes habitudes, tu te rends compte, tes parents qui ont tant œuvré dans cette voie-là, tu te vois, toi, faire autre que ce que tes parents faisaient, c'est vraiment de la traîtrise, tu ne les as pas aimés, tu n'as pas aimé ton pays, tu n'as pas aimé tes origines, tu n'as pas aimé tes coutumes. Shubhatun shaytaniya. C'est une ambiguïté satanique et diabolique. Parce qu'en réalité, nous disons à ce genre de personnes, si vraiment tu aimais tes parents, si vraiment tu aimais ton pays, si vraiment tu aimais ta coutume, tu reviendrais au droit chemin. Car tes parents, eux, ont peut-être agi ainsi, à la recherche du droit chemin qu'ils n'ont pas trouvé. C'est pour ça qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils n'ont pas fait cette chose parce que c'est une chose mauvaise. Pour eux, ils croyaient que c'était bien. Donc ce qu'ils voulaient faire, à la base, c'était le bien, mais on les a trompés. Il y avait les prêcheurs de l'égarement, il n'y avait pas la science du Coran et de la Sunna. Donc c'est pour ça qu'ils en sont arrivés ici. Mais toi, aujourd'hui, qui as la science, qu'eux n'avaient pas, Si vraiment tu les aimes, eux cherchaient peut-être la vérité, ils ne l'ont pas trouvée. Toi, tu l'as. Tu es différent d'eux, tu ne les suis pas là. Parce qu'eux ont fait par ignorance. Toi, tu fais avec science. Donc tu ne les aimes pas, tes parents, en vérité. C'est donc un argument contre eux. Donc, aimer un village, aimer une coutume, ne doit pas repousser la personne et l'empêcher d'embrasser la vérité et de suivre le dîn. Car en faisant, en continuant dans ce chemin, tout le monde va rester égaré. Tout le monde va suivre sa coutume, ses différences dans la croyance, dans les actions, dans les paroles. Et qui va être guidé alors? Et voici la coutume de Quraysh, ô vous les doués de raison. Quraysh a agi ainsi. Celui qui fait cette chose est comme Quraysh. Qui voudrait être comme Quraysh, qui est détesté par Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, le prophète, alayhi salatu wa salam, l'invite, et eux lui disent, vas-tu délaisser la religion de tes ancêtres? Et là, le messager, alayhi salatu wa salam, continue, ô mon oncle, dis la ilaha illallah, et eux continuent aussi. C'est ça, as-sira' bayna al-haqq wa al-batil. La lutte, le combat, le face-à-face entre le haqq et le batil, entre le vrai et le faux. Et il ne cessera d'avoir lieu jusqu'à ce qu'Allah en voudra autrement avant la fin de l'heure. Subhanahu wa ta'ala. Et Ash-Shaykh al-Fawzan dit, هذا فيه أن الداعية لا ييأس. On retient de cela que le prédicateur, le prêcheur, ne doit pas désespérer. Il continue, il prêche, il continue, il appelle, il continue, il invite. Aïe. طلب منه أن يقول لا إله إلا الله. Il lui a demandé de dire la ilaha illallah. Fa'a'ada alayh. Ces deux hommes ont continué. Wal'ayadu billah. Fa'inda dhalik. Et à ce moment-là, qala huwa ala millati abdil muttalib. Il a répondu, ses derniers mots furent les suivants. Il est sur la religion de Abdul Muttalib. C'est-à-dire avant de mourir, il a dit je meurs sur le shirk. Il y a une faïda azima jiddan. Il y a une leçon ô combien importante ici. Et on voit que les salafs salih étaient les imams du tawhid. Elle est la suivante. Voyez ici que le rapporteur du hadith dit faqala huwa ala millati abd al-muttalib. Il a dit il est sur la voie de Abd al-Muttalib, sur la religion d'Abd al-Muttalib. Alors que Abu Talib n'a pas dit ça. Il a dit « Ana ala millati Abd al-Muttalib ». Pourquoi est-ce que le rapporteur du hadith a dit « Huwa » L'imam ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, dans son commentaire de Sahih al-Bukhari, le commentaire de ce hadith, a dit « Parce qu'il a détesté dire « Ana ala millati Abd al-Muttalib ». Parce que « Ana », ça veut dire « moi ». Alors que c'est permis quand tu racontes. Tu dis « il a dit, je suis ». Même ça, il n'a pas voulu le dire. Il a détesté le rapporteur du hadith dire « Ana » alors qu'il s'agit ici de « shirk ». Tarbiyat al-tawhid. Allahu Akbar. Regardez « salaf al-salih » comment ils étaient dans « al-tawhid ». Il n'a même pas voulu dire, subhanallah, il n'a même pas voulu dire Anna, pour parler d'une histoire, que dire alors de leurs paroles à ces gens-là, dans le tawhid? Que dire alors de leurs actions? Que dire alors de leurs croyances? S'ils sont arrivés au niveau, ils font même attention. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahumma allimna al-tawhid. Allahumma allimna al-tawhid. Allahumma usta'an. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Il a refusé de dire la ilaha illallah. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على عمه. C'est à ce moment-là que par compassion envers son oncle paternel, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la astaghfiranna laka ma lam unha ank. J'implorerai très certainement en ta faveur le pardon d'Allah tant qu'il ne me l'interdit pas. Que s'est-il passé à ce moment-là? Allah a révélé le verset de sourate Tawbah qui dit ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه الحق. ماذا؟ أخطأت ها؟ أنهم أصحاب الجحيم. بارك الله فيك. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit dans le sens rapproché du verset, il n'appartient pas aux prophètes ainsi qu'aux croyants d'implorer le pardon d'Allah en la faveur des polythéistes associateurs, fussent-ils leurs proches, après que la guidée ou après qu'il leur ait apparu clairement, c'est-à-dire le prophète et les croyants, que ces gens-là sont les habitants du feu. C'est-à-dire ils sont sur le shirk et ce sont eux les habitants du feu. Donc ici, on voit que le prophète, alayhi salatu wa salam, par souci pour son oncle, a dit « Je vais invoquer Allah pour toi. Je vais invoquer Allah pour toi en jurant. » Jusqu'à ce qu'Allah a révélé ce verset. Car dans le Coran, il y a des versets qu'on appelle « sababiyya » qui sont descendus, révélés par Allah par des causes, et d'autres qui sont « ibtida'iyya » qui sont révélés par Allah sans cause, directement. Celui-ci, il a été révélé pour cette cause que vous voyez dans Sahih al-Bukhari. Et on voit ici que la sunna tufassiru al-Qur'an. La sunna, elle explique le Qur'an, comme on le voit ici très clairement. نَهَاهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا رَأَوْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ لَوْ رَأَوْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِعَمِّهِ لا. لأن المسلمين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه قالوا إذا نستغفر لموتانا أي من المشركين فأنزل الله هذه الآية. Quand les musulmans ont vu, Cheikh Fawzan dit, que le prophète صلى الله عليه وسلم a imploré le pardon d'Allah pour son oncle qui est mort, polythéiste associateur, les musulmans se sont dit, nous aussi alors nous allons implorer le pardon en la faveur de nos proches, défunts, qui sont parmi les associateurs. Allah a révélé le verset et il a fermé toutes ses portes, immédiatement. Subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas permis d'implorer le pardon d'Allah en la faveur d'un polythéiste. Et c'est interdit par Allah dans son livre. Alhamdulillah. Non pas comme le font certains qui apparaissent en public, à la télé, et qui lorsque l'imam du shirk billah, azza wa jal, le pape décède, il dit, rahimahullah, a'udhu billah. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il dit qu'on demande à Allah de donner à cette communauté quelqu'un d'encore plus sincère que lui. Sincère dans quoi? Sincère dans le shirk? Sincère dans... La hawla wa la quwwata illa billah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Allah a dit Ibrahim alayhi salam, qui demandait le pardon pour son père, qu'au moment où il a vu clairement que son père était un ennemi d'Allah en raison du fait qu'il était polythéiste, il s'est désavoué de lui. Et Allah azza wa jalla à ce moment-là a révélé ce verset et a révélé plus tard concernant Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta, tu ne guides pas qui tu aimes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, c'est-à-dire ce n'est pas toi qui possède la guidée dans ta main, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit ici d'un amour naturel, l'amour qu'éprouve le proche pour son proche, qui n'est pas interdit par Allah azza wa jal, quand bien même l'un des deux serait par exemple un polythéiste. Un enfant a le droit d'aimer son parent, ses parents, même s'ils ne sont pas musulmans. C'est un amour qui est naturel, il n'est pas blâmé, il est permis. Allah Azza wa Jal a autorisé, sous condition, et ce n'est pas notre sujet, mais a autorisé le musulman à épouser les femmes des gens du livre, juives et chrétiennes. Et les savants ont dit que forcément un homme qui vit avec une femme va éprouver de l'amour pour cette dernière, mais c'est un amour naturel, l'époux pour son épouse. Ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est l'amour dini, al-mahabba dini al-shar'iyya, c'est l'amour religieux. C'est-à-dire que d'un côté, Ibrahim alayhi salam aime son père parce qu'il est son sang, il est son enfant, et de l'autre côté, il le déteste parce que c'est un polythéiste. Vous comprenez? Et il n'y a pas de contradiction dans cela. Et le fait qu'il l'aime parce qu'il est son père le pousse à l'inviter au monothéisme afin qu'il l'aime parce qu'il est monothéiste. Comprenez? Voici ce que l'islam nous enseigne. Walhamdulillah. Il a donc révélé ce verset, subhanahu wa ta'ala, et a dit, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Et il est connaisseur de ceux qui méritent la guider. Cheikh al-Fawzan a dit, fa nahnu alayna ad-da'wa. Nous, ce qui nous incombe, c'est la da'wa. C'est d'appeler Allah. Wa hidayatul irshadi wal iblar. Et d'orienter les gens et de leur montrer la vérité. Wa amma hidayatul qulub fa hadhihi bi yadillah subhanahu wa ta'ala. Quant à la guidée des cœurs, elle est chez Allah azza wa jalla. Il y a dans le Coran, comme nous l'avons dit au début de ce dars, de ce cours, des choses qui sont affirmées dans des versets et niées dans d'autres. Et les savants ont donné cette règle. Lorsqu'une chose est affirmée par un verset et niée par un autre, la chose affirmée est différente de la chose niée, car il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Ici, Allah Azza wa Jalla a nié dans ce verset le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam puisse guider. Innaka la tahdi man ahbabta. Tu ne guides pas qui tu aimes. Alors que dans un autre verset, il affirme qu'il guide. Et il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Et très certainement, tu guides vers un droit chemin. Y a-t-il une contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Celui qui dit qu'il y a une contradiction, c'est sa compréhension qui est erronée. En réalité, ici, il s'agit de deux guidés. Il y a deux guidés cités par les textes. La première, que l'on appelle Hidayatul Irshad, la guidée de l'orientation, qui consiste à guider quelqu'un en lui disant, si tu veux te rendre à telle ville, prends la route qui est face à toi et tourne à la deuxième à droite. Ici, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as orienté, tu lui as montré la voie. Ça, on peut le faire. Ça, le prophète peut le faire et il le fait très certainement comme Allah Azza wa Jalla l'a dit. On appelle ça Hidayatul Irshad, la guidée de l'orientation. Ensuite, il y a Hidayatul Tawfiq, la guidée de l'assistance, c'est-à-dire la guidée des cœurs. Ça, ce n'est que chez Allah. Et c'est de cette guidée que l'on parle dans ce chapitre, qui consiste à guider le cœur de quelqu'un. Ça, c'est seul, quelque chose que seul Allah peut faire. Je vous illustre ça par un exemple. On a dit qu'il y a deux guidées. L'orientation, puis la guidée des cœurs. C'est-à-dire que quelqu'un peut guider un autre dans le sens où il l'oriente et lui montre la voie à suivre. Puis, soit Allah va guider son cœur, il va accepter cette voie qu'on lui a montrée et vers laquelle on l'a guidé. Ou alors, Allah ne guidera pas son cœur, subhanahu wa ta'ala, et il ne sera pas guidé. Je vous illustre ça par un exemple. Lorsque le voyageur veut se rendre d'un pays vers un autre et qu'il prend avec lui dans sa main un guide, on dit le guide du bon voyageur ou je ne sais pas comment on appelle ça. Il a son guide dans sa main. Ce guide contient toutes les informations nécessaires pour son voyage et pour arriver à destination. Et pourtant, tu verras qu'il y a deux personnes. Une qui va savoir utiliser ce guide et arriver à destination, et une autre personne qui ne va rien comprendre de ce guide et de ce plan. Et qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va se perdre. Mais pourtant, elle avait le guide dans la main, n'est-ce pas? Elle avait toutes les indications nécessaires pour arriver à destination. Eh bien, voilà cet exemple que je vous donne pour dire que le prophète guide les gens, le prêcheur, le prédicateur guide les gens, il leur montre la voie à suivre, puis les gens vont se diviser en deux, ceux qui vont se perdre, car ils ne vont pas tirer profit de cette guidée qu'on leur a offerte, et ceux qui vont arriver à destination car ils ont su utiliser cette guidée qu'on leur a offerte. Cette guidée qu'on leur a offerte, c'est l'orientation. Et celle qui leur a fait l'effet, c'est la guidée d'Allah, la guidée des cœurs. Subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit, il y a dans le hadith et le verset quelques conclusions à tirer. Nous allons en citer quelques-unes. Premièrement, مَشْرُوعِيَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Le fait qu'il est légiféré d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le voit ici, le prophète alayhi salatu wasalam qui prêche et qui appelle son oncle. Deuxièmement, مَشْرُوعِيَةُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ الْمُشْرِكِ مِنْ أَجْلِ دَعْوَتِهِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il est légiféré de rendre visite aux malades polythéistes, musulmans certes, mais ici il s'agit du polythéiste, dans le but de l'appeler à l'islam. Peut-être va-t-il, par ta cause, embrasser cette religion. Troisièmement, وَهِيَ مُهِمَّةٌ جِدًّا, elle est très importante, أَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ. Quiconque dit « La ilaha illallah », on accepte cela de lui et on dit de lui qu'il est musulman. Ma lam yadhhar minhu ma yunaqid hadhihi al-kalima min qawlin aw fi'l. Tant qu'on ne voit pas de lui ce qui est annulatif de cette parole comme action ou parole. Fa in dhahara minhu ma yunaqid hadhihi al-kalima hukima bi riddati. Et si il apparaît de cette personne ce qui annule cette parole, alors on dit de cette personne qu'elle a quitté l'islam. Amma ma lam yadhhar minhu ma yunaqidu hadhihi al-kalima fa innahu yuhkamu bi islami fa in kana sadiqan fi ma baynahu wa bayna Allah fa huwa muslimun haqqan wa in kana kadhiban fi ma baynahu wa bayna Allah fa huwa munafiq amruhu ila Allah 'azza wa jalla amma nahnu fa laysa lana illa adh-dhahir. Il termine en disant, quant à celui qui dit « La ilaha illallah » et qui ne fait pas apparaître d'annulatif de l'islam, on dit de lui qu'il est musulman. S'il est véridique en tant que musulman, alors c'est entre lui et Allah. Et s'il est menteur, c'est un hypocrite. Mais on ne peut rien faire, car on doit prendre ce qui apparaît. Et ce qui est caché, c'est Allah Azza wa Jal qui le juge, subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, il y a dans ce récit la preuve que ce qui jouera le rôle décisif dans l'avenir, je parle de l'au-delà, de la personne, c'est la fin, c'est sa fin de vie. Comment va-t-il mourir? S'il meurt sur des bonnes actions, c'est quelque chose de très bien pour lui. Et s'il meurt sur de mauvaises actions, on craint pour cette personne. Et si cette personne meurt sur le polythéisme, wal'iyadu billah, alors sa destination, c'est le feu éternel. Qu'Allah nous en préserve. Et la preuve, on le voit dans ce hadith où Abu Talib est mort sur le shirk. Cinquièmement, la mise en garde contre les mauvaises fréquentations. Et la preuve, on le voit ici. Il savait que l'islam était la vérité. Il ne l'a pas embrassé parce que ses mauvaises fréquentations lui ont dit « Ne délaisse pas la religion du shirk de tes ancêtres. » Tu vois donc que les fréquentations influent sur la personne. Mais s'agissant de Al-Musayyib et de Abdullah ibn Abi Umayya, on ne peut pas dire qu'ils sont des mauvaises fréquentations puisqu'ils ont embrassé l'islam. Ils sont devenus croyants. Mais Abu Jahl, lui, oui, c'est la pire des mauvaises fréquentations. Alhamdulillah qu'on n'a pas vu ce criminel et cet homme-là. Et qu'Allah lui donne ce qu'il mérite. Sixièmement, il y a dans ce hadith la réponse à ceux qui ont prétendu que Abu Talib a embrassé l'islam. Et ça, c'est la parole des chiites. Wal'iyadu billah. Ils ont dit que Abu Talib a embrassé l'islam alors que dans le hadith, nous voyons très clairement qu'il est mort sur le shirk et le kufr billah. Septièmement, et c'est la plus importante, on voit tafsir ou la ilaha illallah, l'explication claire de la ilaha illallah dans le hadith. Où est-ce qu'on le voit? Qu'est-ce qui répond rapidement? Personne. Naam. Ali.
Les faits qu'il n'a pas voulu dire, parce qu'il sait s'il est dit, il réunit tout ce qui est adorant le Jordan.
Ce que tu dis est vrai, mais ce n'est pas la réponse. Ibrahim. Barakallahu fiqh. Lorsqu'ils ont dit Atarabu an millati Abdul Muttalib, délaisserais-tu la religion de Abdul Muttalib? Ça veut dire que Quraysh comprend et sait très clairement que la ilaha illallah veut dire délaisse le shirk. Alors que des gens aujourd'hui qui prétendent du moins être dans l'islam et qui commettent du shirk, qui disent la ilaha illallah du matin au soir, Muhammad Rasulullah du matin au soir, et pourtant, ils n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah. Et chacun va l'expliquer à sa façon. Les Khawarij vont vous dire la hakim illallah. Nul gouverneur excepté Allah. Les Tablir vont vous dire ikhrajul yaqin al fasid wa idkhalul yaqin al sadiq. Faire sortir du cœur la mauvaise certitude, faire entrer dans le cœur la bonne certitude. Les Soufiyas, les gens du soufisme vont vous dire la ilaha fil wujud illallah, nulle divinité dans l'existence excepté Allah, et j'en passe. Le Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah, le savant du Yémen, a dit que si Abu Jahl était vivant à cette époque et qu'il entendait ces gens expliquer la ilaha illallah de cette façon, il leur aurait donné une gifle. Il leur a dit, bande de stupides, vous ne comprenez pas ce que veut dire la ilaha illallah. Ça, c'est moi qui le rajoute, c'est pas Sheikh Muqbil, rahimahullahu ta'ala. Et la preuve que Abu Talib croyait que l'islam était la vérité, ce sont des vers de poésie dont il a été lui-même l'auteur. Et dans lesquels il a dit, وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا. Et j'ai su très certainement que la religion de Mohammed était la meilleure des religions pour la créature. Puis il va donner la raison qui l'a poussé à ne pas adhérer à cette religion. Laoula al-malamata aw hidara masabbatin la ra'aytani samhan bidaka mubina. Il dit, n'eût été la crainte qu'on me fasse de reproches ou qu'on m'insulte, tu m'aurais vu, en gros, embrasser cette religion. Donc voici ce qui a empêché Abu Talib d'entrer dans l'islam. Il n'avait pas du shubha dans le tawhid, il n'avait pas d'ambiguïté dans le tawhid, comme beaucoup de gens de l'islam aujourd'hui en ont. Il n'avait pas d'ambiguïté dans la sunna, comme beaucoup de gens dans l'islam en ont aujourd'hui. Il avait simplement peur de se faire insulter et critiquer par son peuple. Subhanallah. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم. Mon enregistreur,
il s'est arrêté, donc j'ai besoin d'un d'entre vous.